Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Vaccination contre le Covid-19 à plusieurs vitesses dans le monde. À quand l'immunité collective? Nous en débattrons ce soir, mais pour l'instant, nous retrouvons en direct notre invité décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dominique Sopo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de SOS Racisme ici en France. Un livreur noir a été victime dimanche d'insultes racistes proférées par un homme devant un restaurant de Cergy dans le Val d'Oise. Nouvelle agression raciste de trop, selon vous ?
Toute agression raciste, de toute façon, est de trop. Là, ce qui est assez particulier dans cette agression, c'est comment l'agresseur revendique avec une forme de fierté très démonstrative le fait d'humilier, de rabaisser, d'évoquer la question de l'esclavage en se réclamant de l'Algérie. Je pense d'ailleurs que ce monsieur a surtout fait honte aux Algériens par ses propos. Et c'est d'autant plus spectaculaire, si je puis dire, c'est que nous venons il y a quelques jours de commémorer les 20 ans de la loi Taubira, qui fait que la France est le premier pays à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, d'ailleurs encore un des seuls à le reconnaître comme crime contre l'humanité, et qu'on voit à quel point ces imaginaires autour de l'esclavage, autour de ce que ça a pu entraîner en termes d'infériorisation de la figure du noir, restent des imaginaires extrêmement agissants qui peuvent entraîner ces flots de paroles et de violences absolument indécents et nous l'espérons, aboutiront à une peine significative.
Parlons de violence, Monsieur Sopo, dans la vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, l'homme traite le jeune noir d'espèce de sale noir. Il ajoute, pendant 800 ans, on a vu vendre les noirs comme du bétail. Qu'est-ce qui peut expliquer de tels propos aussi violents dans la France d'aujourd'hui ?
Je pense que ce qui peut expliquer des propos aussi violents, c'est deux choses. D'abord, c'est le fait que ces imaginaires continuent à exister. On sait bien, malheureusement, que ces pages du passé, qui sont des pages de grande violence, ne disparaissent pas comme cela parce qu'on a décrété qu'elles disparaissaient. Il ne suffit pas d'abolir l'esclavage pour abolir les effets de l'esclavage sur les représentations, sur les inégalités, sur le mépris qui peut parfois se projeter sur les groupes. Le deuxième élément, c'est qu'on est de toute façon en France, dans une société qui, ces dernières années, a quand même monté en violence dans les rapports sociaux. On voit bien comment il y a une parole raciste décomplexée.
Et justement, à ce sujet, certains parlent à tort ou à raison de banalisation du racisme et citent très régulièrement le cas d'Éric Zemmour qui, d'après eux, bénéficierait de l'impunité, condamné plusieurs fois pour provocation à caractère raciste, il continue de tenir certains propos controversés sur les médias français.
C'est là où je voulais en venir. Justement, en disant que cette banalisation de la parole raciste est notamment portée par une chaîne comme CNews, à travers Pascal Pro et encore plus de façon spectaculaire par Éric Zemmour, qui, comme vous le rappelez, a été condamné à plusieurs reprises par la justice, d'ailleurs, dans des actions judiciaires qui ont été initiées par SOS Racisme pour plusieurs d'entre elles. Ce jour même où nous parlons, il y a un appel qu'avait interjeté M. Zemmour suite à une précédente condamnation pour avoir appelé les Français, les jeunes Français à faire des ratonnades contre les Noirs et les Arabes. Bien. Donc là, on est sur le cynisme de M. Nedjar, je pense, le responsable de cette chaîne, ou de M. Bolloré, qui est le grand patron in fine. Donc on est sur un cynisme extrêmement fort, venant en plus d'une personne qui fait beaucoup d'affaires en Afrique, pour monsieur Bolloré. Et donc il n'y a pas d'impunité de la part de la justice, puisque ce monsieur a été condamné à plusieurs reprises. Par contre, il y a un cynisme de la chaîne qui continue d'employer ce monsieur et qui fait commerce de la haine, en sachant très bien pourquoi elle a employé Éric Zemmour. C'est pour faire encore une fois ce commerce de la haine.
Monsieur Sopo, pour vous parler du cynisme de la chaîne, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi interpeller la responsabilité de l'État français dans ce type de situation qui pourrait donc justifier des propos racistes tenus en plein jour et sans gêne particulière?
Ben alors, l'État, la justice, c'est l'État français. La justice condamne Éric Zemmour. Donc, l'État français permet qu'il y ait des condamnations de ces propos. Mais l'État, c'est aussi d'autres réalités. On pourrait interroger notamment la question de la régulation des médias audiovisuels, puisque notamment CNews, pour pouvoir émettre, est obligé de signer une charte avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, où il y a beaucoup d'engagements qui sont pris en matière de respect des, de l'autre, de lutte contre les discriminations, de respect de la diversité de la population française. On constate bien que cette charte n'a aucune valeur contraignante, parce que la loi fait que en fait, cette charte n'a quasiment aucune valeur. Donc là, il y a une question sur la régulation des médias ici traditionnels, sur la capacité qu'il y a à retirer éventuellement des droits d'émission, des droits d'émettre, par rapport à des médias qui manifestement se moquent des engagements qui sont pris vis-à-vis du régulateur de l'audiovisuel, sans pour autant, et c'est là aussi évidemment la difficulté, sans pour autant retomber dans un contrôle des chaînes comme nous avons connu il y a 40 ans dans notre pays.
En deux mots, Monsieur Sopo, les actes comme ceux-là ne sont pas malheureusement inhabituels. Ils ont souvent fait la une des médias français. Le CRAN a décidé de porter plainte. Qu'est-ce que vous attendez de la procédure qui va peut-être s'ouvrir et quel rôle peut jouer SOS Racisme?
Alors, d'abord, il n'y a pas de plainte déposée par quiconque réellement pour l'instant, puisqu'en fait, il y a une enquête qui a déjà été ouverte par le parquet.
Le CRAN a annoncé qu'il portera plainte.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le parquet a pris l'initiative. Donc après, il y a des enjeux de communication, j'entends bien, mais en fait, le parquet a pris l'initiative, a ouvert une enquête préliminaire dès que ces faits ont été rendus publics. Bien. Donc il y a une procédure judiciaire. Nous, ce que nous attendons, puisque de toute façon l'auteur a été interpellé, il sera condamné de façon évidente et placé en garde à vue. Il sera condamné de façon évidente. Ça, il n'y a même pas de doute sur le sujet. Par contre, ce que l'on attend, c'est que la condamnation soit à la hauteur du tort qu'il a causé non seulement de personnes, mais également de la société française, parce que l'expression du racisme, c'est toujours quelque chose qui vient banaliser le racisme.
Merci.
Et nous serons évidemment partie civile dans ce dossier. Nous sommes aux côtés du livreur et de cette voisine courageuse qui a filmé cette scène avec laquelle nous nous entretenons régulièrement ces dernières heures pour les accompagner.
Dominique Sopo, merci beaucoup. Vous êtes le président de SOS Racisme.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Vaccination à plusieurs vitesses dans le monde. Vaccination contre le Covid à plusieurs vitesses dans le monde. À quand l'immunité collective? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Docteur Massamba Sassoum Diop, bonsoir. Docteur Diop, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Docteur Patrick Pelou, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France. Et nous devrions avoir en ligne de Yaoundé, professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières à Yaoundé. On me fait signe qu'il n'est pas encore avec nous. Je vais donc évidemment commencer avec vous qui êtes là, messieurs. Grand écart, je le disais en début d'émission, entre l'Europe et l'Afrique, quand on regarde les chiffres des vaccinations, ce qui nous interpelle. Et on se pose beaucoup de questions. Je commence par vous, docteur Pelou. Début avril, moins de 2% des vaccins contre la COVID-19 administrés dans le monde l'ont été en Afrique. Je commence par M. Diop, qui est à cheval entre les deux continents. Quelle analyse vous inspire ces données, docteur Diop?
Oui, alors, il faut comprendre, en fait, que déjà, la gravité, parce que le nombre de cas, je pense, est même largement supérieur dans la mesure où le virus a énormément circulé en Afrique, mais avec une gravité qui est pas loin. Si on prenait vraiment tous les gens qui ont été infectés, nous, en tout cas, on évalue à presque 100 fois moins. Mais je prends un exemple. La RDC, par exemple, qui a reçu des vaccins, a rendu près d'un million de doses quasiment il y a une semaine ou il y a 10 jours parce qu'ils allaient arriver en péremption pour que ça puisse être réutilisé. Donc on voit qu'en fait il y a deux niveaux différents. Il y a un, le fait que les populations soit n'y croient pas tellement, soit, je parle d'une part à la maladie, soit ne sont, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui craignent les vaccins. En plus, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas forcément, qu'il y a des vaccins qui seraient meilleurs que d'autres, qu'il y a des Rolls et qu'ils auraient peut-être pas les bons et tout. Il y a ce niveau-là. Et il y a le fait qui est clair, c'est que, un, les pays africains ne produisent pas leurs vaccins et que les pays qui les produisent, à savoir l'Europe, et là on l'a vu pour ce qui est de l'Inde, commencent d'abord par utiliser les vaccins pour vacciner leur population et ensuite, secondairement, s'occupent du reste du monde, même s'ils ont pris conscience que si on laisse circuler le virus dans le reste du monde, ça aura un effet boomerang et ça peut revenir. On le voit là avec le variant indien qui commence à inquiéter fortement les Anglais. Et après, forcément, probablement le reste de l'Europe. On l'a vu avec le variant brésilien et le variant sud-africain. Donc vous voyez que c'est multifactoriel et c'est effectivement assez compliqué et y a un peu de tout, en local et en international.
D'accord. Donc je disais en fait que vous êtes à cheval sur les deux continents. On me fait signe que monsieur le professeur Yaboum est là, me dit-on. Professeur, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Bonsoir.
Voilà, soyez le bienvenu. Je vous pose à peu près la même question et ensuite on va écouter Dr Pelou, vu de France, sur cette vaccination à double vitesse. Qu'en est-il dans votre pays, le Cameroun? Est-ce que c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que cette inquiétude selon laquelle il n'y a vraiment pas d'enthousiasme des populations?
Ben, effectivement, ce n'est plus une inquiétude, c'est une réalité. Je pense que depuis le début des vaccinations, on a dépassé les 45 000 personnes vaccinées, tout au moins ayant eu la première dose. On a le vaccin Sinopharm et AstraZeneca, alors qu'on s'attendait à avoir près de 800 000 personnes vaccinées.
Donc vous dites 45 000 sur 800 000 personnes ciblées.
Voilà, c'est à peu près ça. Donc, quelque part, on voit bien qu'il y a cette hésitation vis-à-vis du vaccin, ou aussi tout simplement une évaluation individuelle du risque. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vaccins, au départ, sont donnés aux populations pour limiter la transmission des maladies, en règle générale. Maintenant, on est sur des vaccins qui sont utilisés pour limiter des formes sévères. Donc, quelque part, l'intérêt est davantage individuel que collectif, dans une certaine mesure, surtout pour des pays pour lesquels les systèmes de santé n'ont pas été saturés, comme on a pu le voir par ailleurs en Europe et ailleurs.
Donc, il y a une difficulté de la part de ces populations à mesurer le gain qu'ils ont à se faire vacciner et finalement ils se disent ce n'est pas la peine.
Voilà, mais c'est pas une difficulté, c'est une appréciation à leur niveau. C'est-à-dire que si je suis Camerounais, j'ai 35 ans, j'ai pas de comorbidité, quel est le risque pour moi d'avoir la Covid et d'avoir une forme sévère, finalement, plutôt que de prendre un vaccin pour lequel, dans les réseaux sociaux, je vois qu'il y a pas mal de soucis. Donc c'est cette évaluation-là qu'on voit sur le terrain.
Merci. Professeur Pelou, la réalité évidemment est différente ici en France, où la réticence a progressivement disparu et il y a de plus en plus de Français qui sont favorables au vaccin et qui vont d'ailleurs se faire vacciner. Néanmoins, le monde fonctionne la France ne fonctionne pas de manière isolée. Quelles sont les craintes que vous suscite cette réalité africaine ?
Ben d'abord, je vous remercie pour votre invitation et c'est toujours un plaisir d'échanger avec mes confrères des autres pays. En effet, je pense qu'en France, nous avons surestimé le taux de gens qui refusaient le vaccin parce que maintenant que les vaccins sont ouverts à tout le monde, en fait, il y a un véritable embouteillage et les gens veulent absolument se faire vacciner. Je rappellerai quelque chose d'important, c'est que dans les patients que l'on met en réanimation, ces patients n'ont jamais été vaccinés. Ça veut dire que nous avons, les patients qui sont vaccinés font jamais
de forme grave. D'accord. Ça, c'est une certitude, dites-vous.
C'est une vraie certitude, je vous assure. Et quels que soient les variants, parce que, alors, c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai été très ému d'entendre ce que vous disiez en introduction, c'est qu'il y a une différence énorme de traitement entre les peuples du monde et les pays. C'est pour ça que, avec plusieurs, nous avons signé un appel dès le début de la problématique du vaccin au mois de décembre, en disant qu'il fallait que les brevets soient libres de droit et qu'on puisse vacciner partout. Or, que voulez-vous ? Le vaccin est devenu un objet évidemment commercial, puisque c'est les États-Unis qui ont inventé le vaccin Pfizer avec l'ARN messager. Et au lieu, dès le mois de juillet, quand ils construisaient des cuves géantes pour fabriquer ce vaccin aux États-Unis, rien ne leur aurait empêché de construire ces cuves aussi dans les autres pays. Parce que je pense que ce vaccin est une œuvre humaine, est une œuvre universelle.
Excusez-moi, docteur Pelloux, vous plaidez pour la levée des brevets, ce à quoi le président américain effectivement était favorable. Mais la question, avant qu'on en arrive là, c'était de savoir, cette vaccination, on l'a vu à vitesse diverse. En Afrique, c'est très lent. En Europe, et notamment en France, ça va très vite. Est-ce que ça vous...
Non.
Ça suscite des questions et des inquiétudes au niveau de la communauté scientifique française?
Non, chère madame, Ça va très, très, très lentement en France, parce que nous sommes aussi dépendants des pays étrangers. Nous n'avons pas réussi à trouver de vaccins fabriqués en France. Donc, on est très, très lent. Là, vous avez à peine 12 millions de personnes qui ont eu les deux doses. On va très, très lentement. Nous avons une organisation...
Même pas encore 11 millions pour le moment.
Voilà, vous voyez, donc c'est pas du tout rapide, hein. Ne nous mettez pas au même rang que les États-Unis.
Mais par rapport au début relativement lent, docteur Pelloux, plusieurs experts s'accordent à dire que la France a fait une bonne progression et aujourd'hui, non, parmi les pays qui a un très bon taux de vaccination, non, par rapport aux autres pays européens.
Non, je suis pas du tout d'accord, parce que si vous voulez, la vaccination a commencé fin décembre. Là, nous sommes début juin, on va dire 6 mois. En 6 mois, nous avons vacciné en 2 doses que 11 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir 4-5 ans pour vacciner toutes les Françaises et Français. C'est pas possible, c'est pas entendable. Donc on est vraiment très lent parce que l'accès au vaccin a été limité. Et ça rejoint ce que vous disiez précédemment et ce que disaient mes collègues. Ce vaccin devrait être universel parce qu'il est en train de sauver l'humanité. Alors pourquoi il faut vacciner les autres pays étrangers ? Parce que vous ne pouvez pas concevoir que sur la planète, vous ayez des pays où se développe le virus et où le virus est en train de tuer des millions de personnes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable.
Merci beaucoup, docteur Pelloux. On va se retrouver dans quelques petites minutes, hein, quelques petites secondes d'ailleurs, pour parler à nouveau, hein, pour continuer à parler de cette vaccination à plusieurs vitesses contre la COVID-19. À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'immunité collective espérée pour un retour à une vie normale était toujours envisageable face à la vaccination à plusieurs vitesses dans le monde. Nous en parlons ce soir avec Dr Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste, Dr Patrick Pelloux, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France, et professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique à Yaoundé, au Cameroun. Dr Diop, le docteur Pelloux insistait tout à l'heure sur cette levée de brevets qui permettrait de rendre le vaccin disponible partout et bien sûr aussi en Afrique. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui lorsqu'on sait que, vous l'avez dit en début de propos, il y a des vaccins, des pays qui ont dû rendre des vaccins parce qu'il n'y avait pas de candidats?
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous regardez qui est-ce qui se vaccine. Je prends par exemple l'exemple du Sénégal, où on est à peu près à 500 000 vaccinations, c'est-à-dire à peu près 2,60 2,7% de la population qui en ont eu un.
Et 2,5%, dites-vous.
2,64, oui, c'est ça. Ça, c'était les chiffres d'aujourd'hui, de ce matin. On voit que c'est pour beaucoup, les personnes, heureusement, les personnes âgées, et aussi un peu particulièrement les gens plutôt un peu aisés qui ont été un peu aussi les plus malades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et comme d'ailleurs le disait notre collègue Dicamonde, que je salue à cette occasion d'ailleurs, la population jeune de 30 ans, qui représente 70% de la population, c'est de moins de 30 ans, c'est pas sans souci, quoi. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, il faut arriver à sensibiliser et à expliquer pourquoi, lorsque dans votre environnement, il n'y a personne qui est décédé, ou extrêmement peu de gens, ça vous semble pas majeur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça veut dire aussi que, oui, je pense qu'il faut permettre que ces brevets-là tombent, exactement comme on l'a fait pour le sida, pour la trithérapie. Et je vais plus loin, et je pense d'ailleurs c'est ce que pense aussi mon ami Patrick Pelou, c'est que il faut impérativement que nos pays fabriquent. Je crois que l'Institut Pasteur d'ailleurs de Dakar s'est proposé pour cela, pour fabriquer les vaccins. Il faut impérativement que non seulement le brevet tombe et que nous les produisions et que dans l'avenir nous fassions nos corps de recherche pour pouvoir nous-mêmes. On a de nombreux experts dans ces domaines-là et c'est complètement anormal que nos États ne s'unissent pas au niveau de l'Afrique pour pouvoir fabriquer, faire les corps de recherche et produire les choses. On sait que le vaccin ARN, ce sont d'énormes budgets. Mais déjà, quand il y a beaucoup de types de vaccins. Il y a des vaccins qui pourraient être complètement fabriqués en Afrique dès aujourd'hui et en nombre. Donc effectivement, oui, il faut d'une part que les brevets tombent. Deux, il faut que ce soit produit en Afrique. Trois, il faut sensibiliser la population pour faire comprendre qu'est-ce qui est nécessaire et pour quelle population. Parce qu'en fait, on aura, je pense en tout cas, beaucoup de mal à faire vacciner l'ensemble de la jeunesse qui représente plus de 70% de la population. Donc au moins déjà, qu'on mette l'accent sur toute la population qui est à risque. Et après, reste le problème de circulation éventuelle dans une population d'un virus qui peut entraîner des variants. Et ces variants pourront peut-être malheureusement poser des problèmes beaucoup plus graves. Et ça, c'est l'enjeu d'une vaccination de 80 à 90% de la population mondiale. Ça, c'est encore un autre enjeu.
Merci. Professeur Yaboum, est-ce que vous partagez l'analyse du docteur Diop sur cette stratégie qui pourrait permettre de faire sauter les barrières qui jusqu'ici entravent ou bien font que les populations ne se précipitent pas vraiment vers les vaccins?
Oui, je suis d'accord et j'irai même un peu plus loin parce que la levée des brevets, c'est une première étape. Il faut qu'ils acceptent d'avoir un transfert de technologie parce que le brevet, c'est une chose, mais la capacité de produire, c'en est une autre. Donc l'Union africaine a répertorié plusieurs unités qui peuvent le faire en Afrique. Donc maintenant, il faudra aller jusqu'au bout du processus et puis aller au-delà de la Covid, hein, parce que 98% des vaccins africains qui sont en Afrique sont importés. Donc,
justement, c'était ça ma préoccupation, enfin, en sourdine, parce que vous semblez dire, monsieur docteur Diop l'a dit tout à l'heure, qu'en fabriquant sur place, cela pourrait être un élément déclencheur et permettrait aux Africains d'aller se faire vacciner. Or, tous les autres vaccins auxquels auxquels les Africains ont parfois accepté ou ont accepté jusque-là ne sont pas produits sur place et ça ne pose pas problème. Donc, s'il y a un problème avec le Covid, est-ce qu'il ne faut pas chercher la réponse ailleurs?
Mais en fait, quand même, la grosse différence, c'est que les autres vaccins sont des anciens vaccins. Ils sont connus, ils ont été utilisés, et ils sont pour la plupart obligatoires ou donnés au niveau de la naissance. Là, on parle de nouveaux vaccins développés dans un temps relativement court. Et finalement, la quantité d'informations qu'on a sur les réseaux va plutôt dans le sens contraire. Donc, il y a une question de, on l'a dit tout à l'heure, il y a une question de confiance en ces nouveaux vaccins. Donc je pense que effectivement les brevets c'est une chose, la technologie c'en est une autre, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes tout de suite non plus.
Et quelles sont les craintes que cette situation suscite? C'est-à-dire qu'on a une partie ou d'autres parties du monde qui vaccinent de manière rapide, à une vitesse rapide, même si le docteur Pelou n'était pas tout à fait d'accord lorsqu'on dit que la France fait partie des pays qui vaccinent le plus. Mais on observe qu'en Europe et dans d'autres parties du monde, ça avance et pas en Afrique. Quelles sont les conséquences de ce décalage?
Les conséquences premières sont les développements de divers variants, c'est-à-dire que l'épidémie qui continue dans différents pays, le vaccin va continuer de muter et on aura de nouveaux variants et des variants pour lesquels les vaccins utilisés aujourd'hui ne seront probablement pas efficaces. Donc on s'imagine que si le monde n'est pas vacciné, à fin 2021, début 2022, il y aura peut-être des variants qui viendront d'Afrique ou d'ailleurs qui vont retourner en Europe et les personnes qui auront été vaccinées seront à nouveau sensibles et exposées. Donc nous sommes interdépendants. Il faudrait que tout le monde puisse limiter la transmission ou alors tout le monde sera continuellement exposé malgré les passeports sanitaires.
Nous avons le professeur docteur Pelou s'est excusé, donc il ne pouvait être avec nous que pendant un quart d'heure de l'émission. Donc nous sommes donc avec le professeur Yaboum et docteur Massamba Sassoum Diop. Docteur Diop, les Africains donc se montrent toujours réticents. Vous explorez plusieurs pistes, à savoir la levée des brevets pour produire sur place. Peut-être ça peut lever quelques inquiétudes. Mais en réalité, est-ce que au niveau de la communauté scientifique aujourd'hui, ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas un gros souci pour vous de trouver le bon moyen, le bon discours, les bons mots pour vous adresser aux populations africaines?
Oui, et justement, en fait, si vous regardez avec un peu de recul, là, le problème de l'Europe et le problème de l'Afrique est complètement différent. Et je dirais même le reste du monde et l'Afrique et même l'Inde, hein, quand on voit le nombre de morts et le nombre de nouveaux cas en Inde, comparativement à sa population, c'est même actuellement moins qu'en France, hein, ramené à la population. Donc, mais quand on voit qu'il n'y a pas les moyens de soigner les personnes qui sont infectées, ça fait qu'effectivement et qui sont graves, c'est ça qui fait la gravité, si j'ose dire, de ce qui se passe en Inde. Mais en valeur absolue, en nombre par million d'habitants, ce n'est pas le cas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le ressenti de la population et donc la réalité actuelle, hein, je dis bien juste actuelle, de la population et des problèmes en Europe, c'est, si j'ose dire, entre guillemets vital, parce qu'encore une fois la mortalité par rapport à la population générale n'est pas extrêmement importante, mais cette mortalité est suffisamment importante pour que ça devienne un vrai problème de santé publique quotidien en Europe et que ça paralyse le système économique avec les décisions politiques qui sont prises autour, alors que en Afrique le ressenti de la population n'étant pas du tout le même, on est sur un système, si j'ose dire, à deux compréhensions différentes du risque. Le vrai problème, et comme l'a dit Dr Yaboum, c'est que dans l'avenir, si on a vraiment un variant dangereux qui naît en Afrique, ça sera catastrophique. Donc comment arriver à communiquer, pour répondre à votre question, comment arriver à communiquer et à expliquer à une population qu'en fait, c'est aujourd'hui pour les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, les personnes à risque, que là, c'est extrêmement urgent et qu'il faut le faire tout de suite. Et un certain nombre l'ont compris, non négligeable, si j'ose dire, dans un certain nombre de pays, et que parallèlement, il faut arriver à dire à l'ensemble du reste de la population que c'est un pari, si j'ose dire, pour l'avenir, parce que le risque, il est pour l'avenir, si jamais, vous savez, le MERS virus, il tuait 35% de la population infectée, un tiers. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de discuter, nous parlons actuellement à trois, un de nous trois décéderait si jamais on avait eu le MERS virus. Donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes risques. Donc en fait, le vrai risque, il est potentiellement celui-là, et comment l'expliquer? Je peux vous dire que c'est des discussions qu'il y a tous les jours aujourd'hui au niveau des différents ministères de la santé en Afrique, au niveau des différents organismes, de l'OMS, Nations Unies, tout ça. C'est-à-dire que systématiquement, ça revient tous les matins dans les discussions pour savoir comment arriver à
trouver les mots justes pour convaincre les populations.
Exactement. C'est vraiment un travail. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est proposé, mais comprenez, parce qu'entre eux, comment arriver à discuter dans les quartiers, au niveau local, au niveau télévision, au niveau radio, au niveau journaux. C'est-à-dire que c'est tout ça qui est mis en œuvre, mais malgré tout, et les réseaux sociaux pour ça, c'est vraiment une catastrophe. Mais
ailleurs, par exemple, excusez-moi, docteur Diop, je vais revenir à vous tout à l'heure. Pour ce boom, on a sollicité les personnalités publiques, les leaders d'opinion pour essayer de convaincre les populations. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, il semble bien que cette stratégie a du mal à fonctionner parce que même au niveau des leaders d'opinion, on n'arrive pas à trouver des personnes prêtes à faire la promotion, en quelque sorte, de ces vaccins.
Effectivement, au Cameroun, par exemple, on a eu les membres du gouvernement qui ont accepté de se faire vacciner publiquement. Je pense que ça n'a pas eu l'impact.
Je parle des leaders d'opinion, vous savez, de plus en plus de jeunes, des youtubeurs.
Oui, des influenceurs.
Les influenceurs, voilà.
Oui, effectivement, la plupart d'entre eux n'y croient pas non plus. Donc, c'est encore plus compliqué. Déjà que même parmi les personnels de santé, on n'a pas atteint les cibles attendues. Donc, il y a vraiment cette crainte à différents niveaux. Et donc, il est difficile pour les personnes d'aller convaincre d'autres personnes si elles-mêmes ne sont pas convaincues.
Est-il pertinent, dans ce cas-là, aujourd'hui, de continuer à parler du mécanisme COVAX qui permet de fournir les vaccins aux pays africains alors qu'il n'y a pas de candidat pour les vaccins, pour les recevoir?
Oui, mais je pense qu'on ne devrait pas dire qu'il n'y a pas de candidat. Il est important qu'il y ait la possibilité pour ceux qui aujourd'hui estiment qu'ils ont un besoin, un risque de prendre le vaccin, ça va être disponible. Et puis les choses évoluent très rapidement. Hein. Vous savez, en France aussi, au début, il y avait une résistance importante dans beaucoup de pays. Et à un moment, l'épidémie a évolué dans un sens que les personnes, un, voyant le nombre de morts, et deuxièmement, le passeport sanitaire qui contraint les personnes à se faire vacciner, bientôt aussi pour les Africains qui voudront voyager, devront être vaccinés.
Excusez-moi, combien d'Africains voyagent-ils? La plupart n'ont pas de passeport et n'envisagent pas un seul jour prendre l'avion. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner sur le continent?
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un exemple, mais ce qui a poussé les Français principalement, c'est qu'il y a eu cette deuxième vague importante. Et on ne sait pas ce qui peut y arriver avec les prochains variants. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, et c'est ça qui va déterminer les personnes. Encore une fois, on revient sur l'évaluation individuelle du risque. C'est chacun qui estime quel est le risque qu'il prend à avoir le vaccin ou à pouvoir avoir la maladie. Donc, c'est l'épidémiologie qui va convaincre ou pas les vaccins, plus que les influenceurs.
Merci, professeur Yaboum. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants pour dire, finalement, est-ce qu'on peut envisager véritablement cette immunité collective dont parle la communauté scientifique? À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Vaccination anti-Covid à plusieurs vitesses dans le monde. L'immunité collective espérée est-elle toujours envisageable? Nous en parlons ce soir avec professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'Epi Centre Afrique, le centre de recherche de MSF, Médecins sans frontières à Yaoundé, docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal, à qui j'adresse la parole. Alors, monsieur docteur Sassoum Diop, la question donc, nous en arrivons à la conclusion. L'immunité collective dont on a parlé depuis le début de la campagne de vaccination, est-ce qu'on peut l'envisager aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe en Afrique, en Europe et dans le reste du monde?
Alors, oui, alors il y a deux choses. Il y a l'immunité collective liée au vaccin et l'immunité collective liée à l'infection. Alors vous savez, c'est cheval de bataille, mais je ne suis pas épidémio, donc moi c'est clinicien, et c'est le ressenti du clinicien sur le terrain, puisque le premier cas hospitalier, on l'a vu. Et...
On a la chance de pour ça, il y a Boumelet, donc il nous dira peut-être.
Oui, voilà. Mais en tout cas, nous, en tant que clinicien, ce qu'on voit et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport en Afrique, hein, je dis bien, avec non seulement beaucoup, beaucoup, énormément de gens qui ont été infectés, mais pour lesquels il n'y a pas eu forcément la détection, mais lorsqu'on a fait des enquêtes de séroprévalence, on a vu qu'à distance, 7-8 mois après, il y avait encore plus de 20% de la population qui était infectée, et dans des zones où on sait que l'infection, vous savez, elle tourne dans un pays, elle était plus récente dans telle région, du Sénégal, par exemple, dans la Casamance, c'était 40% de la population, c'était à la première vague. La deuxième vague a été... sur Dakar, pas partout, mais dans certaines régions, plus importante que la première. Ça veut dire qu'on peut présumer, et quand on voit que l'immunité, pour l'instant, elle semblerait, hein, je dis bien, elle semblerait, peut-être sur une étude récente en France, durer peut-être 13 mois, peut-être plus, on ne sait pas, on attend de voir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'immunité cellulaire, et non pas uniquement humorale avec les anticorps.
L'immunité, on précise bien, pour celle des personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin.
Non, moi je parle pour l'Afrique, pour ceux qui ont été infectés, vu qu'il y a très peu de gens qui ont une immunité, qui ont été vaccinés. Donc ça veut dire que déjà, on a un taux probablement en Afrique bien plus important qu'on ne le croit de personnes qui ont une immunité collective. Le problème, c'est qu'il faut l'évaluer. Et que, pour pouvoir scientifiquement dire oui, il y a une étude tanzanienne qui montrait d'ailleurs que, par rapport aux Américains, on avait 10 fois plus de personnes déjà immunisées avant même que le Covid n'arrive.
Est-ce que ce n'est justement pas par là que viendra la solution face à la réticence, la large réticence des Africains, c'est-à-dire la piste consisterait à faire des études réelles, et si cette immunité dont vous parlez collective est là, à ce moment, on pourrait envisager ne pas administrer ces vaccins?
Oui, alors, en fait, c'est ça, le danger, c'est pour ça qu'il faut évaluer, parce que c'est là le danger. Si finalement, l'immunité n'est pas si importante que ça, on va se retrouver, vous avez vu ce qui s'est passé quand même en Afrique du Sud, qui est à un niveau intermédiaire, on a eu plus de cas et plus de décès. Donc, il faut faire très attention, il faut avoir une vraie évaluation scientifique pour savoir où on en est, idéalement, et parallèlement, pour ce quand vous me parlez de la vaccination, on sait que du coup d'ailleurs, quand les personnes l'ont déjà eu, une seule vaccination suffit et booste énormément l'immunité et permettrait de pouvoir couvrir, on ne sait pas encore parce que c'est encore à l'état d'observation, couvrir sur un temps beaucoup plus long probablement, puisqu'en fait l'immunité, je dirais que la situation, si j'ose dire, idéale, une fois qu'on l'a, c'est d'avoir fait le Covid et ensuite d'être vacciné, ça semblerait être le top du top, si j'ose dire, de l'immunité.
Merci. Merci.
Mais donc, en résumé, ça veut dire qu'il y a l'immunité collective qu'on n'a pas évaluée en Afrique dans suffisamment de pays pour savoir à combien elle est liée à la maladie, auquel on doit rajouter l'immunité vaccinale, et l'enjeu est vraiment dans cela.
Merci. Professeur Yaboum, voilà, vous êtes épidémiologiste et le docteur Diop le disait. Quand on parle d'immunité collective, elle n'est atteinte qu'une fois que 90% de la population est immunisée. Mais à ce rythme, est-ce qu'on va y arriver?
Il y a deux questions. Est-ce qu'on va y arriver? Quand on voit les enquêtes de séroprévalence que nous avons faites dans plusieurs pays, la RDC, le Soudan, le Niger et bien d'autres, on voit effectivement que les personnes, au Niger par exemple, chez les travailleurs de santé, on arrive à des taux de séropositivité de près de 80%, ce qui n'empêche pas que quelques mois plus tard, les mêmes personnes ont pu être exposées et avoir le virus. Donc finalement, l'immunité collective, c'est quelque chose à suivre, mais il n'y a pas de garantie, surtout avec les variants. On peut avoir à un moment 50% de la population vaccinée, comme c'était le cas aux Seychelles, mais qui ont vu une troisième vague fulgurante parce que finalement, les variants qu'ils avaient ne répondaient pas à ces vaccins-là. Donc c'est très complexe.
Il y a aussi le cas du Chili, je pense.
Tout à fait. Tout à fait.
Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui, pour ce boom, vous, épidémiologiste, qu'il faut désespérer de cette perspective et que, elle s'éloigne? Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement?
Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a besoin d'avancer avec des évidences, donc qui vont venir de la recherche, qui nous diront à quel moment nous en sommes. Aujourd'hui, on a des vaccins qui peuvent protéger contre la plupart des variants, qu'on puisse les utiliser, mais sans avoir la certitude, pour être très transparent, que cela suffira. Il faudra continuer d'évaluer, et à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle étape, qu'on puisse réévaluer. C'est comme ça qu'on gère des problèmes complexes.
À quelles conditions peut-on arriver à cette immunité, et comment peut-être aider à accélérer le processus, puisque c'est ce que tout le monde espère pour pouvoir revenir à une vie d'avant Covid?
Ça c'est la question à 1 million où personne ne pourra vous répondre, hein, parce qu'on va arriver à 90% d'immunité pour un variant, et pour un deuxième variant, ce ne sera peut-être pas le cas. Donc finalement, on va rester optimiste, on va vacciner avec ce qu'on a comme vaccin, et on va suivre les variants de manière à ce qu'on puisse limiter leur transmission au mieux.
Merci. Pour terminer, docteur Diop, en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous avez l'habitude peut-être de dire à vos compatriotes sénégalais pour les pousser à se faire vacciner? Peut-être ça peut aider les autres pays.
Je vais être très franc, c'est à partir d'un exposé ou d'une discussion, et c'est pour ça qu'en fait ça dure au moins une demi-heure à trois quarts d'heure, pour arriver à toucher l'intelligence de chacun et non pas affirmer des choses. Et c'est le seul moyen, je pense, d'arriver à... Il faut que la population comprenne pourquoi. Quel est son intérêt et qu'elle comprenne. Et à ce moment-là, on aura une efficacité. Moi, à chaque fois, j'ai eu plein de moments où je me suis retrouvé avec des personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Après une demi-heure, trois quarts d'heure...
Des discussions, ils sont sortis convaincus.
Elles sont parties. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut expliquer.
Merci.
Il ne faut pas assez...
Expliquer. Merci beaucoup, docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste, et au professeur Yaboum, épidémiologiste, et au docteur Patrick Pelou, médecin urgentiste, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.